Concertina.
Mauvais genre, les identités enfermées, c'est le nom d'un atelier proposé ce vendredi 30 juin 2023 par l'ONG Prison Insider, au premier jour des rencontres Concertina, rencontres sur les enfermements à Dieulefi, dans la Drôme. Alors enfermement genré, règles de séparation des sexes, affectation des personnes trans en détention en France et à l'étranger, discrimination et violence subies par les hommes et femmes trans détenus, c'est de tout cela dont il a été question lors de cette rencontre sur la transidentité en prison, animée par un juriste et une sociologue, Quentin Marcarian et Ludine Kaila. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions au micro de Radio Ici l'Ombre. Peut-être pour commencer, les personnes trans en prison, c'est un groupe qui est encore extrêmement invisible et silencieux, pour reprendre le thème de l'édition de Concertina de cette année.
Oui, même au-delà de silencieux, on pourrait dire silencieux, parce qu'il n'y a pas vraiment de droit à la parole qui est accordé à ces personnes-là. On parle passablement parfois de leur conditions d'détention dans des articles de presse ou à nouveau engagés sous l'angle du fait divers, mais c'est rarement leur parole à elles qui est invoquée, aussi en raison des contraintes liées au fait de pouvoir effectuer des reportages presse par exemple en milieu clos. Mais même lorsqu'on a tendance à inviter des experts et expertes sur le sujet, on invite plutôt des personnes issues du personnel pénitentiaire ou de l'administration, ou des chercheurs et des chercheuses, et beaucoup moins des personnes qui sont directement concernées et qui sont elles-mêmes expertes de leur vécu et parfois qui ont une meilleure connaissance que nous des conditions d'détention, à raison, ou même aussi des contraintes juridiques qui s'appliquent.
Toi Ludine, ça fait partie de ton travail de sociologue, et notamment pour l'écriture de ta thèse, si j'ai bien compris, de recueillir du coup des personnes, des témoignages de personnes directement concernées, de personnes trans en prison. Comment est-ce que tu définirais ce silence qui entoure les personnes trans en détention?
Je pense qu'il y a effectivement un silence de la part de l'administration en général, de l'administration et de la société en général, mais il y a aussi un silence au sein même de la détention. Et par exemple, je me souviens d'un dessin que je leur ai... Lors d'un atelier, je leur ai demandé de dessiner l'espace dans lequel elles se trouvaient et comment elles représentaient la prison. Et il y a une des participantes qui s'est dessinée elle-même avec une muselière, donc vraiment, et elle a dessiné autour une boîte de conserve et me disait, voilà, c'est comme ça, c'est ça notre expérience, on doit se taire, on n'a rien le droit de dire, et on est dans une boîte de conserve. Et quand elle se référait à la boîte de conserve, elle se référait au quartier spécifique dans lequel elle était incarcérée, seulement avec des personnes trans, et donc du coup où il y a davantage de restrictions, parce qu'en fait c'est un quartier d'isolement avec des conditions d'incarcération différentes, pas autant de droits de promenade, pas au même endroit, pas à l'extérieur, elles croisent jamais les autres détenus, elles sont vraiment mises à part. Et donc du coup, voilà, pour elle, cette représentation, c'était la façon dont elle voyait la détention. Il y en a une autre qui a représenté par exemple une cage avec des singes à l'intérieur, et donc c'était à la fois on est dans une cage, mais on est aussi des singes, et on nous regarde comme des singes, on nous regarde comme des monstres. Et donc le silence, il est présent à la fois dans le fait de pouvoir s'exprimer vis-à-vis des autres, mais voilà, d'être silencieux, comme le disait Quentin tout à l'heure. Donc en fait, il y a toutes ces dimensions-là.
Tu parlais de quartiers spécifiques donc pour les personnes trans dans des prisons françaises. Peut-être concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que se déroule le placement en détention des personnes trans en France, et notamment au niveau de l'assignation dans des prisons dites pour homme ou pour femme, comme ça se passe en France aujourd'hui.
Oui, l'affectation est du coup réalisée en fonction, peut être réalisée en fonction de différents aspects, le sexe à l'état civil, les organes génitaux ou encore le genre autodéterminé. Et ça va être des pratiques qui vont être effectuées de manière très diverse selon les administrations pénitentiaires, selon les directeurs d'établissement ou directrices d'établissement, en l'absence, du fait de ce flou juridique entre guillemets là-dessus, bien que normalement ça devrait être, selon les règles de droit, le genre à l'état civil qui devrait décider l'affectation. En pratique, c'est bien souvent les organes génitaux ou d'autres éléments qui vont pouvoir déterminer l'affectation carcérale d'une personne transgenre au sein d'un établissement ou d'un quartier prédéfini, avec la particularité en France de l'existence d'un quartier spécifique, dont un dédié entre guillemets aux femmes transgenres à Fleury-Mérogis, quartier qui n'ont par ailleurs aucune existence légale, qui ne sont pas définis par la loi, qui ne font l'objet bien souvent d'aucun règlement intérieur aussi, si ce n'est les règlements, par exemple pour Fleury-Mérogis, si je ne me trompe pas, c'est le règlement de la maison d'arrêt pour hommes qui s'applique à ce quartier, et c'est ce qu'on retrouve aussi au sein de certains quartiers qui vont être, qu'on va caractériser de spécifiques ou pour personnes vulnérables, qui existent en France aussi, comme par exemple au centre pénitentiaire de Lille, et qui vont réunir une sorte de foule d'individus, de personnes qui ont des caractéristiques différentes mais qui ont le point commun d'être identifiées comme vulnérables par l'administration pénitentiaire et qui constituent in fine des sortes de fourre-tout carcéral où on retrouve à la fois des personnes trans mais aussi des personnes avec des troubles psychiques, des personnes qui sont considérées comme des détenus VIP entre guillemets, fortement médiatisées, ou encore pour Lille en tout cas des personnes qui doivent effectuer par exemple qui ont une condamnation, qui doivent passer devant un tribunal dans un pays plus haut et qui sont juste là en transfert entre guillemets.
Et pour parler de ces quartiers, Ludine, tout à l'heure lors de ton intervention, tu parlais de, tu as utilisé le mot de ghetto trans pour en parler, notamment au niveau des conditions de détention à Fleury-Mérogis. Du coup, ces personnes qui sont déjà privées de liberté, donc elles peuvent se retrouver privées de fait de droits, tu as parlé tout à l'heure de promenade ou de travail, du fait d'être dans ces quartiers avec interdiction de pouvoir en sortir en fait.
C'est reprendre l'idée de ghetto à la fois comme la mise à l'écart d'un groupe marginalisé et stigmatisé, mais il y a aussi dans la dimension de ghetto quelque chose qui me paraît intéressant, c'est la question du retournement de stigmate et de réappropriation de cette identité. Donc à la fois oui, il y a les dimensions négatives en fait qui sont liées au fait d'être dans un espace, donc ce quartier spécifique, c'est un quartier d'isolement au départ. Pas de possibilité de promenade en extérieur, 2 heures de promenade par jour, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, mais cette promenade a lieu dans c'est cet espace-là qu'elles appelaient la cage en réalité, puisqu'en fait c'est une double cellule, donc 2 fois 9 mètres carrés, avec je ne saurais pas exactement comment décrire le toit. Elles reçoivent jamais la lumière directe du soleil, donc elles sont jamais à l'extérieur. Donc voilà, par exemple ça. Ensuite, les conditions de travail, elles ne peuvent pas aller travailler en atelier, elles ne peuvent pas être auxiliaires. Donc auxiliaires, c'est les détenus qui travaillent au sein du centre de détention et qui vont par exemple amener les repas, amener les cantines. Donc ça, zéro contact avec les autres détenus, donc pas la peine d'en parler, les ateliers non plus. Donc en fait, le seul travail qui reste, c'est le travail en cellule, qui est souvent le travail considéré comme le moins qualifié et le moins rémunérant, on va dire. Donc voilà, il y a tout est... Et en plus, ça dépend du fait qu'il y ait des entreprises qui viennent et qui leur apportent du travail, donc il n'y a aucune régularité. Et en plus de ça, les conditions de travail sont assez dégradantes, en quelque sorte, puisque... c'est de la production par pièce à l'unité, et en fait elles doivent produire une quantité monumentale pour pouvoir être rémunérées sur un temps minimum et en réalité elles ont l'impression qu'on leur apporte ce travail là pour qu'elles soient dans leur cellule occupée et qu'elles fassent pas trop de bruit, en gros c'est ça l'idée. Et puis surtout bah oui, l'impossibilité d'avoir un travail qu'elles pourront par la suite valoriser comme une expérience d'apprentissage, comme une expérience qualifiante. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout sur la question du travail.
En tout cas, enfin, le choix entre guillemets pour ces personnes trans qui seraient en détention en France, où vous avez parlé de la Suisse aussi ou de la Belgique, je crois, ce serait donc soit d'aller dans ces quartiers spécifiques, un peu ghettoisés, ou soit, si j'ai bien compris, vous avez parlé de personnes qui abandonneraient presque leur transition pour pouvoir. Parce que les conditions ne sont pas satisfaisantes du tout de détention hein, dans ce cas-là.
C'est pas un choix des personnes concernées, c'est plutôt un choix de l'administration pénitentiaire par rapport à l'affectation, en l'absence d'un droit au placement en prison, qui va être déterminé selon les critères dont on a pu discuter auparavant. Et il n'y a vraiment aucune forme d'autodétermination qui est possible pour les personnes transgenres incarcérées de choisir où elles vont être. Et d'ailleurs, on voit par rapport à l'administration pénitentiaire que ce qui les intéresse davantage dans le placement, c'est pas vraiment les questions de genre plutôt, mais d'autres données ne font pas référence à un cadre juridique. Et je pense en particulier, en parlant par exemple du canton d'où je viens, à Genève en Suisse, c'est davantage la question de l'ethnicité, entre guillemets, qui va déterminer le jeu de l'affectation, de savoir par exemple quelle personne vient des Balkans et qui d'autre vient d'Afrique du Nord, parce qu'on peut pas les mettre ensemble, parce que ça va être problématique. Et chez nous, c'est vraiment ça qui détermine, entre guillemets, l'affectation en cellule ou en quartier davantage que d'autres données. D'ailleurs, il faut aussi le préciser, il y a d'autres règles juridiques qui existent par rapport à l'affectation. C'est la séparation des prévenus et des condamnés, par exemple. En Suisse, mais comme dans d'autres prisons en France aussi qui sont surpeuplées, on n'arrive même pas à séparer prévenus et condamnés. Donc, entre guillemets, violer l'identité de genre de certaines personnes, c'est perçu comme un moindre mal par l'administration pénitentiaire en considérant ceci.
Je crois que sur la question de l'affectation, en fait, il y a à la fois les règles énoncées par chaque établissement, chaque directeur et tout ça, mais il y a aussi le fait de qui est là au moment où la personne arrive et sur quoi on se base, sur des stéréotypes ou pas, et sur des stéréotypes ou sur la capacité de la personne à reconnaître ou savoir poser la question aux personnes de qui elles sont et quel est leur genre. Il y a ça, et sur la question de retour de transition entre guillemets liée aux conditions d'incarcération, oui, je crois que le cadre binaire dans lequel s'inscrit le système pénitentiaire est parfois tellement dur pour certaines personnes qu'elles préfèrent éviter cette confrontation et cette revendication permanente vis-à-vis de l'institution. En revenant en arrière sur leur transition. Après, c'est pas une question de choix, c'est une question de contrainte face à la contrainte permanente qui est en face, quoi.
Pour comprendre cette réalité autour de la transidentité dans les prisons, il y a très peu de chiffres, de données, de statistiques sur ce sujet. Votre travail amène à mieux connaître du coup cette réalité, mais au niveau de l'État, au niveau gouvernemental, il y a rien en fait, comme on peut s'appuyer sur aucune base, sur une base statistique.
Non, mais il faut aussi dire que les statistiques de recensement de la population carcérale sont binaires dans tous les cas, donc les personnes transgenres pourraient être noyées là-dedans, mais il y a aussi une volonté assez claire de ne pas produire de statistiques par rapport aux personnes trans qui sont incarcérées. Et si elles devaient exister, la question, ce serait quand même sur quoi ces statistiques se basent, sur l'autodétermination des personnes, comment elles se définissent, ou est-ce que c'est sur les perceptions des directeurs d'établissement d'établissements, des directrices d'établissements. La seule donnée, entre guillemets, qui a été lâchée à travers, je ne sais plus si c'était un rapport parlementaire ou une question de député, par le ou la l'ancienne ministre de la Justice, c'était qu'il y avait un nombre, en tout cas inférieur à 50 personnes, je pense que ça devait être entre 20 et 30, qui avait été mentionné comme contingent, entre guillemets, de la population carcérale transgenre en France. En Suisse, par exemple, nous, on a juste une donnée qui n'est même pas chiffrée et qui dit que la population LGBTIQ, donc même pas seulement les personnes transgenres, représente une partie infime de la population carcérale.
Sur les revendications en fait des personnes trans en détention privées de liberté, est-ce qu'il y a, enfin, quelles sont telles déjà, est-ce qu'il y a des voix qui se sont élevées de la part de détenus ou d'anciennes ou d'anciens détenus sur ces questions-là spécifiquement?
Alors oui, il y a des revendications qui sont présentes, qui sont parfois difficiles à être. Elles ont les revendications, il est parfois difficile qu'elles soient portées, ces revendications, et c'est là que certaines associations jouent un rôle important. Le Génépi l'a fait pendant pas mal de temps, ils avaient fait remonter auprès de certains députés, voilà, il y a des actions, il y a d'autres associations, il y a le PAST, il y a AcceptST, ACMINOP, c'est des différentes associations qui interviennent, qui accompagnent et qui se font souvent porte-voix de ces revendications. Et les revendications, quelles sont-elles? Tout d'abord, la question de la reconnaissance de la part de l'administration pénitentiaire des personnes dans leur genre. Et ça passerait par quoi? Ça passerait par éviter le mégenrage, c'est-à-dire éviter le fait que les surveillants, les différents membres de l'administration pénitentiaire et même les conseillers de probation et d'insertion et de probation traitent les détenus dans leur genre ressenti et non dans le genre auquel eux-mêmes les identifient. Donc c'est souvent une des premières revendications. Ensuite, il y a justement l'accès à la promenade. Ça, c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur et je pense qu'il est important dans la relation à l'enfermement et à l'isolement, en fait, tout simplement. L'accès à des produits spécifiques auxquels elles n'ont pas accès puisqu'elles sont incarcérées dans des maisons d'arrêt pour hommes. Il y en a plusieurs qui revendiquent la possibilité et la nécessité d'exprimer et de vivre leur féminité dans cet espace carcéral.
Je me demandais qu'en est-il des personnes qui transitionneraient en cours de détention. Est-ce que par exemple ces personnes pourraient avoir accès à un traitement hormonal ou une intervention chirurgicale si elles le souhaitent?
Normalement, juridiquement, oui, si elles remplissent les conditions. Est-ce qu'ils ont été vraiment rabaissés, entre guillemets, ces dernières années, en tout cas en France et en Suisse, pour l'obtention, en tout cas, d'hormones. Donc normalement, oui, ça devrait être une possibilité, mais en pratique, il y a souvent des sortes d'obstacles à leur obtention en prison, à la fois dû au mauvais accès aux soins de santé dans cet espace-là, mais aussi parce qu'il y a une volonté claire, dans certains cas, d'empêcher à ces personnes d'effectuer leur transition.
Ça fait d'ailleurs partie des revendications quand il n'y a pas les possibilités, puisque c'est régulier que certaines se retrouvent sans traitement et qu'elles soient pendant longtemps interrompues. Donc effectivement, ça aussi, ça fait partie des revendications principales.
D'accord. Est-ce qu'il y aurait des... Enfin, vous avez étudié le droit des personnes trans en prison dans différents pays. Est-ce qu'il y aurait des caractéristiques française, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais des caractéristiques françaises spécifiques sur les personnes trans en prison et leurs conditions de détention ou leur...
Juridiquement, il n'y a rien, à part la reconnaissance très symbolique de l'identité de genre dans le code pénitentiaire, si je ne me trompe pas, l'article L6. comme motif un peu anti-discrimination et qu'il ne faut pas... Enfin, que les personnes doivent être traitées, entre guillemets, en accord avec leur identité de genre au même titre que le handicap, par exemple, c'est un motif à respecter par l'administration pénitentiaire. Mais il n'y a pas de... à l'échelle nationale, en tout cas, il n'y a pas d'autres règles de droit qui leur sont dédiées spécifiquement. Il peut y avoir, à d'autres échelles, parfois au niveau local, dans certains établissements, des notes de service internes qui existent, mais dont, moi, en tout cas, je n'ai pas forcément connaissance, mais en tout cas, il y avait l'envie, ou en tout cas, il avait été annoncé il y a un ou deux ans maintenant, que l'administration pénitentiaire écrirait des sortes de lignes directrices à propos de la prise en charge des personnes transgenres incarcérées, mais à ce jour, on n'a pas encore vu la couleur.
Peut-être pour terminer, quelle perspective peuvent avoir les personnes trans privées de liberté incarcérées dans une perspective réformiste de la prison, voire abolitionniste? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les, ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter en tout cas pour les années à venir?
Je crois que dans une perspective abolitionniste, on travaillerait en amont sur les questions des parcours de vie et des ruptures familiales, sociales pour les personnes qui réalisent une transition et pour qui il y a déjà beaucoup d'enfermement et de violence dans un système de genre binaire. Et peut-être à partir du moment où on pourrait travailler sur ces questions-là, ça évacuerait déjà peut-être la question de la prison, à mon avis.
Oui, il s'agit vraiment de respecter l'identité de genre des personnes trans qui sont incarcérées d'abord et ensuite d'abolir la prison tout simplement.
Merci beaucoup Ludine Kayla et Quentin Marcarien. Ici l'ombre, une radio passagère fabriquée avec amour par Radio d'ici, Radio là, Radio Saint-Ferréol et Radio BLV.